Exerçons-nous le contrôle sur la langue? Dans le monde qui nous entoure, on apprécie beaucoup celui qui est capable de riposter. On se limite de moins en moins dans la promptitude à parler. Nous vivons dans un monde d'opinions binaires et de polémiques. Un monde polarisé. Il est tellement facile à s'exprimer aujourd'hui et atteindre beaucoup de personnes. On met sur Facebook un commentaire qui atteint tout de suite des centaines de personnes, voire des milliers. Et de l'autre côté, sur les médias sociaux, on n'est pas non plus obligé d'écouter les réponses des autres quand on s'exprime. On peut fermer les yeux, on peut fermer les oreilles, si vous voulez boucher les oreilles, mais souvent on va s'exprimer quand même. On peut dire ce que l'on veut, sans des répercussions dans la vie réelle, des fois aussi. Au moins, c'est quand même ça qui semble la réalité. Et vite fait, les gens découvrent que des fois, même sur Facebook, même sur les médias sociaux, leurs paroles quand même rapportent des fruits qu'ils n'avaient pas prévus de temps en temps. Mais de temps en temps, on a de moins en moins cet aspect qu'on nous écoute et qu'on peut dire ce qu'on veut sans des répercussions. Puis, on a de moins en moins de pratique dans l'art de la conversation à cause de ces choses. Les jeunes préfèrent s'envoyer des textos au lieu de se parler au téléphone aujourd'hui. Même s'ils ont le FaceTime, le Skype et des médias, des facilités à se connecter par vidéo, c'est par les textos que souvent les jeunes vont se parler. Avec les textos, ils peuvent participer à plusieurs discussions en même temps, mais ils ne sont pas totalement dédiés à l'activité comme on est dans une conversation face à face. Ils peuvent faire autre chose, et puis recevoir et envoyer des textos. Multitâche. Par exemple, dans une conversation, combien de temps passons-nous à écouter l'autre? Combien de questions posons-nous qui sont issues de notre préoccupation pour l'autrui? Combien d'attention faisons-nous pour le visage, l'expression, les yeux, la réponse de l'autre, la réponse physique, corporelle de ce qu'on dit? Les médias sociaux sont abusés et ils ne sont pas capables de passer la communication dans la même façon que nous avons en face à face. Les médias sociaux sont abusés par des égoïstes et par des personnes qui sont préoccupées par l'idée d'influencer les autres d'une façon déséquilibrée. Donc, s'ils semblent être à l'écoute sur leur programme, des fois, ils sont de plus en plus là pour eux-mêmes. Je vous donne un exemple. Il y a toute une industrie qui s'est développée sur Internet autour de YouTube et d'autres services similaires. Les gens cherchent d'avoir des abonnés sur YouTube et sur Switch et sur d'autres Twitch, des choses comme ça. Donc, ils cherchent même à avoir des gens qui vont les regarder jouer des jeux de vidéo, donner de l'argent pour avoir joué bien dans un jeu de vidéo. Avec le clic d'un bouton, on peut donner $1, $5, et notre joueur favori ou celui qui est le meilleur va recevoir un petit don. Et ça arrive souvent. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Je vous dis des choses qui sont courantes maintenant. Puis, on aura la possibilité d'être mentionné par celui qui l'a reçu le don. Donc, il va peut-être remercier ses fans, remercier ceux qui le suivent. La réalité, c'est que les gens, les jeunes en particulier, préfèrent ce contact virtuel au lieu d'un contact interpersonnel. Et c'est une spirale vers le bas, car les gens sont moins capables d'être sociables, de moins en moins. Il y a trop de risques, en plus, d'aller entamer une conversation face à face aussi. On s'expose un petit peu. C'est ça, là, dans la tête des jeunes, c'est on est plus à l'abri des répercussions. On est un peu en anonymat. c'est quand même un ressentiment des jeunes aujourd'hui. On doit s'exprimer comme ça, et parce que on risque d'avoir des mauvaises répercussions si on se met à parler en réalité, face à face. Ces problèmes courants sont de bons rappels pour nous de considérer la qualité et la teneur de nos discussions face à face. Parlons-nous délibérément après avoir réfléchi à quoi dire? Est-ce que nous perdons le réflexe d'écouter celui avec qui nous discutons? Considérons-nous l'impact de nos paroles? Je vous cite quelques versets. Ecclésiaste 12, verset 11. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Et puis Ecclésiaste 10, verset 12. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé causent sa perte. Puis Proverbe 25, verset 11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Puis finalement, Matthieu 12, versets 36 et 37, « Je vous le dis, dit Jésus, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Est-ce que ça, c'est assez pour nous démontrer l'importance des paroles? C'est quand même un bon départ. Aujourd'hui, discutons, parlons, considérons des choses qui ajoutent à notre capacité, comme je vous ai dit en première question plutôt, de tenir la langue et contrôler la langue. Pas juste tenir la langue, mais contrôler la langue. Parce que nos paroles seront jugées. Ils sont en train d'être jugés et nous aurons un jugement sur les paroles que nous allons exprimer. Donc, la première chose que je voulais souligner aujourd'hui, c'est, et la Bible nous le dit, c'est d'être lent à la colère. D'être lent à la colère, c'est une façon de bien s'assurer que nos paroles vont être associées à des bonnes choses. Est-ce que la tension est de plus en plus élevée lorsqu'on s'exprime aujourd'hui en colère? On monte en colère. Est-ce que l'œil critique nous empêche à apprécier les autres si on est en colère avec eux? Est-ce qu'on peut accepter quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous si on est vite à la colère au lieu d'être non à la colère? Toutes ces choses sont liées à la maîtrise de soi, bien sûr. La maîtrise de la conduite de la langue aussi. Il y en a plusieurs d'entre nous à mèche courte qui se laissent de temps en temps des gens qui se laissent à des grandes explosions de colère. Je pense pas entre nous. Pas entre nous. Je vais vous dire ça. Ceci est très visible sur les commentaires ajoutés par n'importe qui. Les gens sur Internet, en plus, comme je vous ai exprimé, ce que je vous ai dit, ils s'expriment facilement en colère. Ils montent en colère, ils rajoutent des commentaires, ils maudissent les gens, ils disent des choses vraiment vaines, vraiment mauvaises sur les personnes. Et souvent, ça peut même apparaître juste en dessous d'un article sur Internet. Est-ce que vous avez déjà balayé les commentaires? Après les articles, c'est de plus en plus répandu aujourd'hui, c'est pratique. Et en plus, sur certains sites Internet, c'est bien la discussion qui est animée plus que l'article. L'article donne la base, et puis les gens vont aller faire des milliers et milliers de commentaires. Et celui-là, un tel, va répondre à celui-là. Et même pendant les vidéos, pour les événements comme les web diffusions, les gens se mettent à faire des commentaires en live, en direct. Et ça devient une pratique aujourd'hui incroyable. C'est fou, parce qu'on est en train de répondre aux commentaires et on a une oreille qui écoute ce qu'on regarde sur la vidéo, par exemple. Et aujourd'hui, il y a même une expression pour cela, pour cette colère, qui s'appelle d'être déclenché. Je vais me déclencher, je vais déclencher. Comme si une réponse de colère était comme une balle chargée dans un pistolet armé. Donc, par exemple, je suis enragé, je suis vraiment en colère envers quelqu'un qui a insulté quelqu'un d'autre. Bah, moi, j'aurai mes revanches. Et la chose la plus troublante de cette expression est que la société a jugé acceptable d'être en mode de déchargement, déchargé. Ils disent, je vais me décharger, et puis boum, 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 boum. Ils vont tirer les balles, entre guillemets. Ils vont lancer des paroles vraiment comme des missiles. Donc, verbalement, ils se déchargent sur quelqu'un ou sur un groupe, ou sur un événement. Et puis, voilà, ils vont essayer d'endommager d'autres personnes. C'est ça, c'est un endommagement, c'est un hurle. Cette pratique s'est développée sur les médias sociaux, comme je l'ai dit, tout en liberté, sans avoir des répercussions. En fait, petit à petit, c'est devenu quelque chose qui se fait en verbal, face à face maintenant. Vous l'avez déjà vu avec ce qui s'est passé en 2020, cette année. Vous avez déjà vu la police contre les émeutes et les gens qui, de plus en plus, deviennent violents, même dans une démonstration, une manifestation pacifique, entre guillemets. Et cette idée qu'ils vont... Ils vont presque cracher sur la personne et ils sont emportés par leurs idées, par leurs mots. Et c'est vrai que quand on se met en foule, en émeute, ça devient différent et les gens commencent à avoir une énergie qui n'est pas là quand on discute calmement avec une personne. Donc, voilà, c'est une pratique qui s'est développée, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive en vie réelle aujourd'hui. On se met en colère pour dénoncer l'autre. Et si vous avez déjà été victime de ceci, vous n'allez pas bientôt l'oublier. Ces explosions caractérisent l'année 2020, je suis certain. Considérons maintenant Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 et le verset 26. Nous avons beaucoup d'avertissements dans le Nouveau Testament ici. Et aussi, bien sûr, dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes et les Psaumes. Mais ici, l'apôtre Paul écrit au verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Donc déjà, si je lis ça directement, je peux dire qu'on peut se mettre en colère. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible pour nous. Puis verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour voir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Puis au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, certaines choses devraient vous mettre en colère. Oh, est-ce que c'est possible? Si vous voyez des abus, vous pouvez vous mettre en colère. Si vous voyez une corruption délibérée, vous pouvez vous mettre en colère contre ces choses. La question, c'est que faisons-nous de cette colère? Être en colère n'est pas mauvais, forcément. C'est quand même un risque. Donc, il ne faut pas qu'on le fasse souvent. Pour qu'on soit maîtrisé par nous-mêmes, mais trop d'entre nous ont grandi dans des circonstances où la colère mène à des abus ou à des préjudices, préjugés. Quand les gens qui ont vécu cela se mettent en colère, ils se cachent parfois et nous cachons nos sentiments. Mais il y a un temps pour être en colère. Il existe un moyen de contrôler, de maîtriser cette colère. Si je me fâche contre une personne et que je la blesse, je me trompe. Une excellente façon de gérer la colère est de vous dire « je suis en colère ». Vous ne vous précipitez pas sur quelque chose, mais vous pouvez admettre que vous avez une certaine colère. Certaines personnes emmagasinent beaucoup de colère, puis ils libèrent cette colère dans un élan de colère. Et donc, nous avons la possibilité de se mettre en colère. Mais Paul le souligne, ne péchez point. Ça veut dire aussi, c'est un avertissement, que la colère peut nous emporter vers la colère, vers le péché, pardon. Et donc, faisons attention avec ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit lent à la colère. Il faut hésiter avant d'être en colère et de nos choix quand nous sommes en colère. Considérons l'exemple de l'Éternel, Néhémie, chapitre 9. Néhémie, chapitre 9, et le verset 17. Quelques qualités de caractère. Il refuse d'obéir et mire en nous dit les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils réduisent leur coup. Et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, Dieu, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonneras pas. Nous imitons les bonnes qualités de Dieu, lent à la colère, compatissant, prêt à pardonner. Notre colère dépend sur notre vision de l'autre, de l'autrui, de la personne, de la circonstance, de la situation. Donc, si on va être lent à la colère, il faut qu'on soit raisonnable dans nos jugements. Il ne faut pas qu'on soit emporté par l'émotion tout le temps. Joël 2, verset 13. Joël 2, et le verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Il est lent à la colère. Donc, nous avons même un exemple très parlant de Jésus qui nous a montré un exemple d'une colère juste. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11 et le verset 15. Donc ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière par toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc Jésus s'est mis en colère juste contre ceux qui achetaient et vendaient, qui avaient transformé la maison de Dieu dans un endroit pour profiter des gens. Il se souciait de la maison de son père. Une deuxième chose qui peut nous aider à avoir un contrôle sur la langue, maîtrise de soi, c'est d'être prompt à écouter. Prompt à écouter. Dans le contexte de la colère, Nous avons des qualités qui démontrent le besoin de l'équilibre chez le chrétien. Certaines qualités à développer sont des qualités qui nous demandent à faire plus d'une certaine chose. D'autres qualités à développer sont des qualités qui nécessitent qu'on se bride. La Bible parle beaucoup de brider la langue. Certaines qualités font le contrepoids d'autres qualités aussi. Si on considère les extrêmes, on est soit prompt ou lent à écouter. On est soit prompt ou lent à parler. On est soit prompt ou lent à se mettre en colère. Par contre, la promptitude n'est pas préférée dans tous les cas pour savoir se limiter. D'après les érudits juifs, il y a 4 caractères différents. Prompt à écouter et prompt à oublier. Celui qui est comme ça, son gain est nul à cause de sa perte. Il y a l'autre qui est lent à écouter et lent à oublier. Sa perte est annulée par son gain. Puis il y a celui qui est prompt à écouter et lent à oublier. Celui-là est sage. Et puis le quatrième, c'est lent à écouter et prompt à oublier. Voici un malin. Il n'écoute pas et il oublie ce qu'il a entendu. Le philosophe Zeno a dit, « Nous avons 2 oreilles, mais nous n'avons qu'une bouche afin que nous écoutions plus et que nous parlions moins. » Donc, dans ce qui implique l'écoute, on ne peut pas vraiment écouter quand on est en train de parler. Il n'y a rien plus évident que ça quand on est à la table avec des enfants à la maison et tout le monde se parle en même temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, j'imagine, mais nous le vivons actuellement chez nous. Quand tout le monde se met à parler, personne n'est compris. On ne peut pas se comprendre comme ça. Et des fois, j'ai déjà souligné, vous avez quand même 2 oreilles et une bouche pour une bonne raison. Considérons Proverbe 10 et le verset 19. Proverbe 10 et le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Proverbe 10, verset 19. Des fois, on se met à parler, on met l'accent sur la façon avec laquelle les gens parlent. Ceci nous rappelle qu'il est important d'apprécier l'acte d'écouter aussi. Des fois, une personne peut écouter longtemps sans rien dire, puis il répond ou il donne un commentaire avec justice. Avec peu de mots, il répond. Mais dans l'autre cas, le cas négatif, on peut être quelqu'un qui écoute, mais tout le monde sait que des fois, quand on n'écoute pas réellement, on prépare ce qu'on va dire ensuite, des fois. On ignore un peu la commentaire de l'autre quand on est en train de préparer notre prochain commentaire, des fois. Donc, c'est une bonne pratique dans la conversation d'écouter et de retransmettre ce que vous avez entendu. Si vous avez déjà essayé ça dans vos conversations, je vous garantis presque tout le temps, ça va avoir un meilleur résultat si vous écoutez un moment. Et si, avec cette personne, vous essayez de reformuler un petit peu l'idée que cette personne vient de vous transmettre, vous allez faire plaisir ou faire à la personne et vous allez participer mieux à la conversation. C'est une façon de faire. C'est une pratique assez simple, mais que je trouve qu'on fait de moins en moins aujourd'hui. On passe d'une chose à l'autre. Et pour qu'on soit... développé dans cet art de conversation, c'est bien de penser à ça. Réfléchissons sur les paroles, et puis, avant de lancer notre propre idée, on va essayer de reformuler ce que cette personne nous a dit pour résumer un peu l'idée, pour s'assurer qu'on était bien à l'écoute et qu'on a bien entendu ou compris ce que la personne voulait nous dire. Et puis, si jamais on n'a pas compris, ils vont nous dire, non, c'est peut-être pas ça, mais c'est comme ceci. Proverbe 17, verset 28, l'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. J'aime beaucoup celui-là. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Des fois, nous rencontrons quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute, et cette personne ne cherche pas conseil, mais il a besoin de parler. L'écoute peut nous permettre de partager le fardeau de quelqu'un d'autre, sans du tout répondre à cet commentaire. Nous sommes à l'écoute, et après, la personne semble se sentir mieux quand il a l'expression, la possibilité de s'exprimer, cette personne. Donc, dans notre relation avec Dieu, il faut que nous soyons équilibrés. Nous devons nous efforcer à l'écouter, à étudier sa parole, à répondre à sa volonté, et non seulement de lui parler, mais de l'écouter. Des fois, nous demandons de l'aide à Dieu sans prendre le temps d'attendre sa réponse. Donc, soyons patients avec Dieu et soyons lents à parler dans ce sens-là, vite ou prompt à écouter dans ce sens-là. Puis, Proverbe 28, verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la voix, sa prière même est une abomination. » Donc, c'est un petit rappel que si nous sommes dans une situation où nous demandons quelque chose à Dieu et nous continuons à transgresser sa loi, à quoi nous attendons-nous? Est-ce que nous attendons une réponse positive si nous n'avons pas fait le nécessaire pour nous corriger nos actions? Donc voilà, nous avons une autre chose qui peut nous aider. Une troisième, c'est la douceur. La douceur. Galates chapitre 5. La douceur figure dans la liste ici, qui écrit le fruit de l'esprit. Galates, chapitre 5, et le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Je dirais que je vous ai cité la douceur, on va se concentrer sur la douceur, mais bien sûr, si on a le fruit de l'esprit qui se développe en nous, c'est certain que nos conversations vont s'améliorer. Parce que chaque aspect du fruit de l'esprit nous aide avec notre prochain, nous aide à considérer l'autrui. Et c'est une question de maîtrise de soi, cette idée de conversation, de discussion, l'importance de nos paroles. Et si nous considérons l'évaluation de nos paroles, de la douceur de nos paroles, est-ce que nos paroles sont douces ou est-ce que nous avons tendance à dire des paroles qui sont un peu difficiles, un peu même amères, un peu moins doux, un peu trop dures? Je peux dire aussi, pour partager un petit peu plus de ce qui se passe à la maison chez nous, c'est un petit peu l'interview des Harper aujourd'hui, mais Monsieur William Harper ici, depuis quelques semaines, je peux dire ça honnêtement, à presque chaque matin, il se lève, il a des plaintes, il commence sa journée avec des plaintes, il commence à dire « Je n'aime pas ça, je n'aime pas ci, je ne veux pas ça, je ne veux pas faire ceci. Maman, maman, aide-moi. » Ça, c'est une routine depuis quelques semaines chez nous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a perdu sa douceur avec ses mots et il a commencé une habitude. Je pense que c'est une phase qui va passer assez vite, mais il est monsieur qui se plaint. Monsieur qui se plaint le matin, qui se plaint le midi, qui se plaint le soir, souvent. Je vous dis que des fois, bien sûr, il y a d'autres moments, mais c'est quand même une tendance qui m'a fait peur, qui m'a fait un peu peur, parce que je ne veux pas que ça devienne son habitude. Et donc, on est en train de travailler sur ça. On peut tous rire un peu sur William dans son petit âge de 3 ans. Mais si une personne adulte fait la même chose, à quoi allons-nous penser de cette personne finalement? Est-ce que nos conversations avec cette personne vont nous édifier? Est-ce que nos conversations vont produire un bon fruit? Ou est-ce que nous sommes plutôt à risque de se mettre dans le même bain, dans la même sauce, si vous voulez, et à devenir un peu celui qui se plaint aussi? Donc, les paroles de l'autre peuvent avoir un impact sur nous, donc gardons en tête cette douceur, cet esprit qui nous conduit, et soyons en train d'imiter le marchant dans les pas de Jésus-Christ. Dieu est capable de nous guider, mais nous sommes capables de l'ignorer aussi. L'homme essaie de se justifier. « Ah bon, je disais pas grand-chose, c'était pas sérieux, c'était juste une blague. Ah, c'était pas pour faire le vrai. Moi, je voulais pas me plaindre réellement, c'était juste... Ah, oh, je ne savais pas que... Ah, » voilà, on peut se justifier plus facilement, mais quand on dit des fois, une fois que les mots sortent de la bouche, c'est difficile de les rattraper, n'est-ce pas? Ils sont déjà là, ils font... Ils agissent. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on permet, en revanche, au lieu de la douceur, quand on permet à l'émotion de nous dominer? Nous ne maîtrisons plus le contrôle sur nous-mêmes, sur la langue, sur notre comportement. Et nous faisons des choses qui risquent de nous faire mal, et de faire mal aux autres aussi. 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, c'est pas très loin, chapitre 1, verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. D'abord, il n'écoute pas, il n'obéit pas. Il ne voit pas de loin. Il ne peut pas voir. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc, c'est plutôt un comportement du monde à laisser derrière nous et à développer, à remplacer ces mauvaises choses avec de la bonne chose, avec le fruit de l'esprit. Le monde aujourd'hui nous encourage de nous laisser aller, faire ce que nous voudrions faire, dire ce que nous voudrions dire, que ce soit l'achat de tout ce que nous voudrions acheter sur le vendredi fou, ou la drogue, l'alcool, pour dire les gros mots, pour parler en commérage contre d'autres personnes, pour râler contre les institutions, contre le gouvernement, contre n'importe qui, contre nos voisins. Eh bien, il faut qu'on tourne le dos à ces pratiques. Avec l'aide de Dieu, en étant soumis à sa parole, à sa volonté, nous avons la capacité de développer le fruit de l'esprit. Nous sommes capables de surmonter ces tendances humaines. Donc, si nous allons commencer à faire ça, des fois, ce sont des petits gestes, des petites choses qui arrivent petit à petit. On va remplacer le mal avec le bien, petit à petit. On va remplacer la colère avec la douceur. On va remplacer nos mauvaises tendances avec l'aide de Dieu nous allons pouvoir surmonter ces choses. Donc, spirituellement, il faut lutter contre ces choses. Il faut lutter contre les mauvaises habitudes. Il faut lutter contre les tendances de ce monde. Considérons Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Et le verset 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Et il parle de ce commandement. Si on remonte au verset 11, c'est ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Et puis, verset 14, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc, des petites choses qui développent un caractère qui joue sur notre destinée, notre destin. Pour apprendre, il faut recevoir la parole de Dieu avec douceur, avec humilité, pour ne pas être emporté en colère, pour remplacer la colère par la douceur, nous avons besoin de semer la parole de Dieu en nous. Le mot grec praoutes, qui a été traduit douceur dans la Bible, est lié à la maîtrise de soi, dans l'idée de maîtriser les émotions au lieu d'être emporté par les émotions. Le résultat dans le cadre de la Bible, c'est d'avoir un esprit tranquille et capable d'apprendre. Donc, nous pouvons développer l'habitude de dire à Dieu souvent, je voudrais changer. Donne-moi la force de changer cette partie, cet aspect de mon caractère, de remplacer le mal en moi par le bien de toi. Donc, si la parole est implantée avec l'aide de Dieu, la parole nous viendra au moment où nous en avons besoin. Et quand on aura la possibilité de riposter, la possibilité de répandre comme le monde, hop, la parole de Dieu sera dans notre cœur, sera dans notre esprit, et nous allons maîtriser la langue, j'espère. C'est un travail en continu. C'est un travail qui continue toute la vie. Et les situations changent. Donc, nous ne sommes jamais toujours dans les mêmes situations tout le temps. C'est ça qui fait que nous avons beaucoup d'occasions de comprendre ces choses, de rajouter à notre compréhension par des exemples différents, par des situations différentes. Si on était testé dans les mêmes situations tout le temps, est-ce qu'on produirait vraiment de la croissance? Donc, profitons de la variété de la vie pour développer le fruit de l'esprit. Une quatrième chose, c'est de regarder le miroir. Regarder le miroir, qu'est-ce que je veux dire? Nous avons tendance à minimiser nos fautes et tout en même temps à voir de gros fautes chez autrui. Nous connaissons Matthieu 7, versets 1 à 5, l'idée de « Laissez-moi ôter une paille de ton œil, hein, toi qui as une poutre dans le tien, de ne pas être hypocrite, mais d'avoir quand même une certaine conscience de notre comportement, de nos fautes, de notre capacité d'avoir des fautes. Nous ne sommes pas encore parfaits, c'est sûr. Jacques, dans l'épître de Jacques, chapitre 1, fait une illustration qui correspond à celle-ci dans l'aspect de l'aveuglement à nos propres fautes. C'est comme si ce poutre nous aveugle de nos propres fautes aussi. Même si quelqu'un d'autre le voit facilement, ça nous empêche de voir, en fait. Jacques chapitre 1 et le verset 23. Jacques chapitre 1 et le verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Est-ce que c'est ça la façon d'avoir plus de confiance, d'avoir plus de maîtrise de ça? Est-ce que c'est une bonne pratique d'oublier nos fautes, de complètement ne pas traiter nos faiblesses? C'est ça que le monde nous encourage à faire souvent. C'est, il ne faut pas du tout penser à nos fautes. Il faut dire des choses positives devant le miroir. Et ce n'est pas cet miroir que je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais vous décrire. C'est la Bible qui est le miroir, ici, dans le livre de, dans l'épître de Jacques. Donc, il donne cet exemple ici, versets 23-24. Et puis maintenant, au verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Nous sommes capables d'être corrigés, d'être exhortés, être même condamné par la voix de Dieu, par la parole de Dieu, si nous avons la possibilité de regarder dans cette miroir, dans le miroir, dans la Bible. La Bible, en nous considérant la Bible, nous arrivons à mieux nous comprendre. Nous ne sommes pas parfaits. La Bible nous révèle ce que nous sommes, la vérité sur nous-mêmes. Nous pouvons voir à travers la Bible beaucoup plus profond que simplement le visage, comme il dit ici. Nous arrivons à voir ce qui se passe dans le cœur. Nous comprenons l'humain en nous et nous comprenons notre Créateur aussi. Si on demande conseil sur notre comportement à un ami ou à un frère, nous attendons une réponse honnête et franche. Mais de temps en temps, même notre frère ou notre ami n'osera pas nous dire quelque chose car il ne souhaiterait pas nous décourager ou nous offenser. Mais c'est une bonne pratique pour garder la paix dans nos relations. C'est maîtriser la langue, c'est ne pas être trop critique. Mais si on cherche vraiment une réponse à la parole de Dieu, dans la parole de Dieu est capable de nous répondre sans mâcher ses mots. La parole de Dieu va nous répondre. Si nous comparons notre comportement au comportement de Jésus-Christ et de ce qu'il nous demande de faire, nous allons voir clairement les différences. Si nous sommes capables de vraiment regarder dans le miroir, si on enlève le poutre de nos yeux, nous avons la possibilité de vraiment voir. Quand nous n'agissons pas suite à ce que la Bible nous a révélé, nous oublions ce que nous sommes. Nous faisons une grave erreur de calcul. Donc, voilà, cette perspective de soi et cette capacité de regarder dans le miroir, qui est la parole de Dieu, nous donnera la possibilité d'avoir une approche différente envers autrui quand nous nous exprimons. La parole de Dieu donne des avertissements. Mais qui voyons-nous dans le miroir? Nos paroles vont déterminer la réponse. Nos actions comptent. Notre capacité de mettre en application la parole de Dieu est importante. Donc, il y a un article que j'ai trouvé récemment sur vieespoirevérité.org qui nous propose des questions à se poser avant d'intervenir en discussion. Il y a 5 questions. Ils disent que nous devons nous poser avant de dire quoi que ce soit à quelqu'un. L'article dit, la Bible décrit la langue folle comme un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Les paroles imprudentes laissent des cicatrices dans les relations et affectent négativement des vies. Nous nous plaçons dans toutes sortes de situations délicates parce que nous ne réfléchissons pas avant de parler. Or, si nous tournions notre langue 7 fois dans notre bouche avant de parler, Cela nous éviterait bien des problèmes. Nous devrions au moins mesurer nos propos pour les rendre plus faciles à recevoir. Il est même possible que nous nous ravissons à y réfléchir. Donc, cet article nous propose, pour maîtriser la langue, pour tenir la langue en bride, cette question en premier. Ai-je tous les faits au sujet? Ça explique, nous nous rappelons quasiment tous d'une occasion où nous nous sommes mis en colère à la suite de quelqu'un, quelque chose qu'on nous avait supposément dit ou fait, et où nous avons découvert à la suite que nous nous étions totalement mépris. Donc, la première question, c'est « Ai-je tous les faits ?» Une deuxième question, c'est « Ce que je dis, est-il constructif ?» Et l'article dit, évidemment, si ce que vous pensez ou dites est vrai, cela ne veut pas dire qu'il faille que ce soit dit. Donc, à réfléchir sur cet aspect de constructif. Avant d'ouvrir la bouche, ils indiquent, demandez-vous ce que vous essayez d'accomplir. Dire quelque chose va-t-il améliorer la situation ou aggraver le problème? À qui cela serait-il profitable? Troisième question. Mes paroles sont-elles gentilles? Mes paroles sont-elles gentilles? Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ce que vous avez à dire, mais le matraquer de critiques n'accomplira rien. Et c'est ça que cet article rejoint ce que je vous ai dit en commençant. C'est cette habitude aujourd'hui de partir vers le mal, de critiquer, d'insulter les autres. C'est une habitude, particulièrement dans les jeunes, d'être très critique et de se déclencher. Je peux vous dire que c'est devenu acceptable à se déclencher et les gens s'applaudissent. Ils disent « Ah, vous avez bien fracassé cette personne avec vos paroles. » Et ils sont applaudis sur Internet de leur capacité de se déclencher contre quelqu'un d'autre. C'est dommage. La société récompense les gens et encourage les gens à faire le mal. Donc voilà. Quatrième question qu'il propose, c'est « Est-ce que ou est-ce ma place de dire quoi que ce soit? » Est-ce ma place de dire quoi que ce soit? Il dit « Il nous arrive souvent de soulever un problème quand ce devrait être quelqu'un d'autre qui s'en charge. » Je travaillais jadis avec une femme qui raffolait de me dire ce qu'elle avait entendu les autres dire à mon sujet. Elle disait des choses comme « Michel pense que tu t'habilles vieux jeu. Suzanne trouve que ton rire sonne bizarre. Alex pense que toi et ton mari, vous êtes incompatibles. » Et la personne pense qu'elle fait des bonnes choses. Et puis, l'article continue, ces commentaires m'ont blessé. Disait-on réellement ces choses à mon sujet, dans l'affirmative? Pourquoi ne me les disait-on pas de face? Donc, l'article dit, j'ai adopté la règle personnelle suivante. Quand on se plaint de l'un de mes amis, je ne le répète pas. Si ce que la personne me dit semble contenir une part de la vérité, je lui suggère d'en parler directement avec mon ami. Puis, cinquième question, est-ce le bon moment? Est-ce le bon moment? Donc, le roi Salomon, qui était sage, disait « Combien est agréable une parole dite à propos? » C'est Proverbe 15, verset 23. Il est possible de dire quelque chose fort à propos, mais au mauvais moment. Et vous le savez déjà, nous sommes capables de dire des choses au mauvais moment. En particulier, quand on voudrait résoudre un problème. Je sais que dans le mariage, les hommes ont souvent envie de résoudre des problèmes avec leurs paroles, mais peut-être la femme n'est pas prête à entendre si elle était offensée, si elle était touchée par quelque chose, elle n'est pas tout de suite prête à lancer le discours pour résoudre le problème. Nous avons tendance, quelquefois, les hommes, à vouloir remettre les choses au correct, et puis on va s'en aller, on va continuer. Mais des fois, que ce soit une femme ou que ce soit quelqu'un d'autre qui n'a pas le même caractère que nous, on n'est pas là pour résoudre les choses tout de suite. Donc, des fois, le bon moment, c'est d'attendre et peut-être même oublier complètement le sujet ou peut-être attendre que la personne est prête à discuter. Donc voilà, nous avons 5 questions là. Je trouve ces 5 questions très, très intéressantes, très instructives pour la maîtrise de la langue et pour la possibilité quand même d'améliorer notre efficacité dans la conversation. Est-ce que c'est l'un de nos désirs d'être efficace dans la conversation, d'être capable d'être constructif, d'être capable d'encourager les autres? Est-ce que nous partons avec cet objectif en tête souvent? Je sais que moi, je peux vous dire que c'est un aspect que je dois travailler. Et je travaille, et c'est comme je vous ai dit, c'est un aspect pour certains qui prend toute la vie. Et nous avons quand même besoin tous de faire du progrès ensemble et de s'encourager dans notre lutte contre les tendances humaines et les tendances de ce monde. Donc j'espère que aujourd'hui cette idée de tenir la langue, de contrôler la langue, nous donnera de quoi à travailler sur nous-mêmes. Est-ce que nous considérons l'impact de nos paroles? Des fois, on pense que dans notre tête, on pense que ces paroles sont pas grand-chose, que notre conversation, c'est juste une conversation légère. Et dans la tête de l'autre, c'est peut-être quelque chose qui va se souvenir pendant des années. Je sais que certaines personnes se rappellent de certaines paroles, de certains moments, de certaines critiques même, pendant des années et des années. Est-ce que nous sommes conscients de ces choses quand nous discutons avec d'autres personnes? Et est-ce que nous allons nous efforcer à contrôler la langue, à tenir sa langue quand il le faut, et d'être constructif avec nos paroles? J'espère que c'est un projet intéressant pour nous. C'est quelque chose qui peut nous pousser vers une meilleure compréhension de l'autrui et de nous-mêmes aussi. Donc, considérant ces aspects, quand on considère l'idée de parler avec les autres.